VOA Afrique, les infos à Washington.
Heureux de vous retrouver, Eric Manidakiza, pour développer les points de ce journal. 12h à Washington, 18h à Bujumbura et 16h à Ouagadougou. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme dénonce la recrudescence de meurtres et de tortures au Burundi. Presque chaque jour, des corps sans vie sont retrouvés dans les rues de certains quartiers de Bujumbura. Et depuis avril dernier, 134 meurtres ont été enregistrés par l'ONU. La porte-parole du bureau du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Cécile Pouilly, joint à Genève, n'exclut pas le risque de voir le Burundi rebasculer vers un épisode plus sanglant.
Bien entendu, ces meurtres dépassent les limites. Il s'agit de la vie humaine qui est précieuse. Ce qui nous alarme aujourd'hui, c'est vraiment une augmentation non seulement des meurtres, mais aussi des arrestations et des détentions depuis le début du mois. Vous savez, presque chaque jour, dans certains quartiers de Bujumbura, on retrouve des corps sans vie dans les rues et ces victimes semblent avoir été tuées par des balles, parfois tirées à bout portant, dans le cœur, dans la tête. On retrouve les corps portant des traces de torture, les mains liées dans le dos. Donc vous voyez une situation qui suscite une peur vraiment, des craintes profondes au sein de la population et notamment dans des quartiers connus pour leur soutien à l'opposition. Donc suite à cette recrudescence de meurtres, plus de 134 depuis avril 2015, nous avons vraiment désiré tirer la sonnette d'alarme.
Et qui sont responsables de ces actes?
Alors, effectivement, il faudrait des enquêtes approfondies pour déterminer les personnes responsables. Toutefois, nous avons reçu des rapports qui suggèrent que parmi ces personnes, certaines avaient été, avant leur mort, arrêtées par la police ou les services nationaux de renseignement. Et ces meurtres inexpliqués, vraiment, qui aussi suscitent beaucoup de craintes parmi une partie de la population qui y voit un lien avec les institutions étatiques.
Est-ce qu'il y a un risque de débordement violent de la part des victimes ou de ceux qui se sentiraient en danger?
En tout cas, il y a clairement un risque de voir le Burundi rebasculer vers un épisode plus sanglant. On a vu depuis les dernières semaines, les derniers mois, des attaques ciblées avec d'un côté des membres de l'opposition et de la société civile, mais aussi des membres ou des partisans du parti au pouvoir pris pour cible, des responsables militaires. Et ce qu'on risque de voir, c'est que ces exécutions extrajudiciaires qui ne sont pas punies, les tortures qui ont lieu et qui reste également impuni, toute cette impunité au total poussait des gens à faire justice eux-mêmes et donc à risquer de voir le Burundi replonger vers des représailles violentes et c'est une voie vraiment que nous ne souhaitons pas voir le Burundi emprunter.
Des cas du genre, le Burundi en a connu après les élections de 2010, des exécutions extrajudiciaires. Il n'y a jamais eu de suite judiciaire. Faut-il envisager d'autres actions? Est-ce que le régime en place peut-il régler ces cas?
Alors, le gouvernement peut tout à fait mener enquête et c'est sa responsabilité, c'est son obligation, bien sûr, d'identifier les auteurs des meurtres, car jusqu'à ce jour, pour les cas qui ont été documentés par notre bureau depuis avril 2015, nous ne voyons pas de lutte contre l'impunité. Les gens qui sont responsables des tortures, que nous avons aussi documentées, plus de 90 cas depuis le mois d'avril, il n'y a pas d'auteur qui soit traduit en justice et qui soit puni. Et cette impunité vraiment va forcément lier à davantage de violence et ne peut pas permettre de réconciliation nationale ni d'avancer sur le chemin de la paix pour le Burundi. Tout cela s'inscrit aussi sur un contexte général très compliqué pour les citoyens ordinaires. Il faut savoir que leur vie au quotidien du fait de la situation sécuritaire est compliquée, la situation économique est difficile, donc on voit vraiment que le pays est dans une situation précaire.
Et d'après vous, comment arrêter cette situation ?
Il faut vraiment un retour à la table de négociation pour trouver une solution politique à la crise. Il faut que les personnes qui sont responsables des tortures, des meurtres, que ces gens soient punis, traduits en justice, que les personnes qui n'ont rien à faire en détention soient libérées. Il y a beaucoup de détentions arbitraires au Burundi, des gens qui restent parfois pendant des mois en détention préventive, alors que la législation nationale a fixé une durée maximale qui est bien en deçà. Il faut bien sûr trouver une solution politique également.
Cécile Pouilly, joint à Genève par VOA Afrique. Bangui était paralysé par des barricades sur les principaux axes. Au moins 6 manifestants ont été tués ce lundi après un week-end de violences meurtrières accompagné de pillages. À Brazzaville, l'opposition a tenu hier un grand rassemblement pour demander au pouvoir de renoncer à son projet de référendum qui permettrait au chef de l'État de se représenter. En 2016, en République démocratique du Congo, une dizaine de militaires et de civils ont été abattus hier par des individus armés non identifiés près de l'Emera dans le sud Kivu. Les victimes convoyaient la paille des enseignants de l'Emera. Les assaillants ont volé l'argent. Et en Allemagne, Ignace Mwanashaka et Straton Moussoni, président et vice-président des FDLR, rebelles Hutus rwandais, ont été condamnés à 13 ans et 8 ans de prison par une cour de Stuttgart où ils comparaissaient depuis le 4 mai 2011. Et au Burkina, l'ex-régiment de sécurité présidentielle, l'unité d'élite de ce pays, auteur d'un coup d'État avorté contre le gouvernement de transition, refuse de poursuivre le désarmement, annoncé lundi l'état-major général des armées dans un communiqué. Ce processus de désarmement prévu par un accord entre l'armée loyaliste et les putschistes est dans une impasse, souligne l'état-major qui dénonce le refus de l'ex-régiment de sécurité présidentielle, dissoute vendredi par le gouvernement, de poursuivre le désarmement en créant des incidents et en agressant le personnel chargé de cette mission. Et l'homme d'affaires béninois, Patrice Talon, principal opposant au président en exercice Boni Yayi, se prépare activement pour la présidentielle de février 2016 au Bénin. C'est irréversible, a déclaré à l'AFP un de ses proches collaborateurs, exilé à Paris depuis plus de 2 ans, mais toujours resté très actif au sein de l'opposition. L'homme d'affaires de 57 ans demeure jusqu'ici prudent dans la presse au sujet de son éventuelle candidature. Et les principaux adversaires du chef de l'État ivoirien sortant Alassane Ouattara ont réclamé lundi à Abidjan un accès équitable aux médias publics lors d'une manifestation à un mois de la présidentielle du 25 octobre.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Ailleurs dans le monde, à New York, au siège des Nations Unies, le président américain Barack Obama a manifesté la volonté des États-Unis à collaborer avec la Russie et l'Iran pour éradiquer l'État islamique en Syrie. Cette approche a été immédiatement critiquée par le sénateur républicain John McCain. Et les autorités saoudiennes n'ont toujours pas fourni un décompte par nationalité des victimes de la bousculade qui a fait 769 morts et 934 blessés jeudi dernier. Le Mali a décrété un deuil national de 3 jours suite à la mort de dizaines de Maliens à Mina. Et le Royaume-Uni va envoyer quelques dizaines de soldats en Somalie et peut-être dans le Soudan du Sud. Le contingent britannique devrait aider à renforcer la sécurité dans la région, a annoncé lundi un porte-parole du Premier ministre britannique David Cameron. Environ 70 soldats se rendront en Somalie où les insurgés islamistes Shabab, affiliés à Al-Qaïda, combattent le gouvernement de Mogadiscio, soutenu par la force militaire de l'Union africaine en Somalie. En Afghanistan, les talibans ont pris le contrôle de Kunduz, ville stratégique du nord du pays. C'est la première fois depuis la chute de leur régime en 2001 que les rebelles talibans sont entrés dans une grande ville afghane, Kunduz, infligeant un grave revers au gouvernement afghan en place depuis tout juste 1 an. Et oui, députés et 2 sénateurs ont été élus au premier tour du scrutin législatif à Haïti qui visait à renouveler la totalité des 119 députés et 20 sénateurs sur les 30 que compte le pays, a annoncé lundi le Conseil électoral provisoire. Et c'est ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Le prochain, c'est dans 50 minutes sur VOA Afrique. Au revoir.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.